Pendant les fêtes, vous avez peut-être vu passer ça sur vos médias sociaux. En tout cas, la publication a été partagée plus de 90 000 fois. Il y a une médecin de l'hôpital Pierre Legardeur à Terrebonne qui a lancé un cri du cœur. Elle a interpellé directement le premier ministre Justin Trudeau durant la controverse sur les voyages dans le Sud. Et elle enjoignait le fédéral à mettre un terme aux voyages d'agrément dans le Sud. La médecin s'appelle Amélie Boisclair. Elle est intensiviste et elle est au front présentement avec ses camarades soignants au moment où on crée un débordement dramatique dans nos hôpitaux. Il est au bout du fil. Docteur Boisclair, bonjour.
Oui, bonjour, M. Legacy.
Donc, écoutez, je vous avez fait ce cri du cœur pendant les fêtes qui a été beaucoup relayé par des citoyens, je le disais, 90 000 partages sur Facebook, les médias en ont parlé. Pensez-vous qu'on devrait pouvoir voyager dans le Sud présentement?
comment dire? Je pense que les recommandations de la santé publique sont claires. La réponse simple, c'est non.
OK.
Non. Tout le monde va trouver une bonne raison. Nous, les premiers, on a besoin de vacances. On rêve tous de notre voyage dans le Sud.
Surtout vous, les soignants, les soignantes.
Bien, tout le monde. Mm. Je veux dire, oui, je parle pour les soignants, mais je veux dire, autour de moi, je le vois ce qui se passe, là, les restaurateurs, les gens qui perdent leur job, qui sont isolés, tout le monde qui n'a plus les moyens, mais qui voudrait partir dans le Sud, c'est généralisé. Là, le problème, c'est pas est-ce qu'on a envie de partir dans le Sud, c'est est-ce que d'un point de vue citoyen, c'est un bon moment pour le faire?
Je comprends, mais demain, n'en demeure pas moins que c'est permis. Il y a peut-être une absurdité là-dedans. Là.
Ben oui, en fait, c'est sûr que là, moi, je ne suis pas en position, je me garde une petite gêne entre ce que je pense et ce que je dis tout haut. c'est ça, lisant les lignes. Mais, tu sais, présentement, il y a beaucoup d'incohérences. Je pense que dans votre métier, vous êtes en train de les souligner de bonne façon. C'est sûr que moi, ce que je vois, c'est où mon cri du cœur est venu, c'est que le 31 décembre, moi, j'étais sur le plancher, c'est lourd, on jongle, où est-ce qu'on met les patients, comment on s'assure d'être capable, s'il y a une urgence dans l'immédiat, pouvoir offrir les soins à quelqu'un. Les infirmières viennent d'apprendre qu'ils perdent leurs vacances, puis on s'entend, les vacances, c'est pas le bon terme. C'était leur jour de repos qu'elles avaient planifié, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des mères monoparentales. L'école était annulée. Elles aussi, il faut qu'ils fassent l'école à la maison pendant cette période-là. Mmh. Alors, sur le plancher, on apprend ça. Je vois mon équipe qui est déjà à terre, mais qui tient le fort, recevoir un coup de trop, ça pleure, ça se réorganise. Hein. C'est des filles qui sont, surtout des femmes, on ne se cachera pas, fortes, qui sont toujours dans l'action, puis qui sont là pour les patients, puis pour l'équipe, en fait. Puis c'est ça, là, quand on a entendu pour les voyages, j'ai fait, OK, là, il y a une partie de l'équipe qui ne fonctionne pas avec nous autres. Là. Ça ne marche pas.
OK. Ça, c'était il y a deux semaines. Oui. Là, on est deux semaines plus tard. Concrètement, là, on dit que les hôpitaux sont sur le point d'être submergés. Concrètement, pour vous, à Pierre Legardeur, là, à hauteur de soignante, comment ça se vit, Dr Boisclair?
Bien, comment ça se vit? Présentement, on est à 150 % de capacité. Donc, normalement, on est une petite équipe de quatre. Je parle pour les médecins, là, parce que... Bien, vous voyez aussi toute la problématique qu'il y a avec tous les autres professionnels de la santé. Mais on était une petite équipe de CAF, c'est qu'on a demandé de l'aide de d'autres confrères. Mmh. Puis, on a dû impliquer une autre spécialité, là, la médecine interne. Donc, nos collègues viennent nous prêter main forte parce qu'il y a trop de patients pour ce qu'on est capable, nous, de couvrir, de ce qu'on juge de façon sécuritaire actuellement. Ce qui était l'unité coronarienne, donc les patients qui souffrent de problèmes cardiaques, a été pris par les soins intensifs. Les patients de l'unité coronarienne ont été déplacés dans ce qui est la chirurgie d'un jour, donc ils ont créé du mieux qu'ils peuvent un endroit le plus sécuritaire possible pour les patients, mais qui n'est pas optimal. Et à tous les jours, j'ai un de mes collègues, le Dr Liu, qui est vraiment plus dans toute la gestion administrative de tout ça, passe plusieurs heures par jour avec l'administration pour planifier des transferts de patients.
Des transferts vers où?
Les patients verts sont transférés. On a la collaboration de notre hôpital affilié qui est Joliette, qui est l'hôpital vert. Donc là, on essaie, dès qu'un patient de soins intensifs est assez stable pour être transféré, de les envoyer là-bas pour qu'on puisse garder un lit de libre pour s'il y a une catastrophe dans notre propre hôpital. Ou un patient qui arriverait à l'urgence, qui serait trop instable pour être mis dans l'ambulance et être transféré ailleurs.
Est-ce que... OK, puis je sais, là, je ne veux pas vous demander de lire des feuilles de thé puis de prédire l'avenir. Là. Est-ce qu'il y a des gens qui vont... OK. Quelqu'un fait une crise d'appendice, là. Ouais. Quelqu'un a un accident de voiture, quelqu'un tombe d'une échelle. Est-ce qu'il y a des gens qui ne pourront pas être soignés parce que votre hôpital est trop plein?
Actuellement, non.
Puis dans le futur?
Je le crains.
OK.
Beaucoup.
C'est une possibilité, sans être alarmiste, là.
Bien, c'est pas une question d'être alarmiste. C'est une question que nous, notre travail, c'est d'essayer de se préparer. Tu sais, à chaque fois qu'on se dit avec le COVID, ça n'arrivera pas, bien finalement, à date, ça arrive, puis beaucoup plus tôt qu'on pensait. Parce que quand le feu pogne aux poudres, là, ça va vite. Tu sais, puis il y a beaucoup de variables là-dedans. Tu sais, là, présentement, je vous donne un exemple, là, j'ai une éclosion sur un étage. Bien là, ces patients-là sont plus mobilisables. Fait qu'il y a des lits qui vont être bloqués plus longtemps. C'est du personnel qui se font dépister puis qui sont positifs, ils retournent à la maison. Fait que là, parce que c'est pas juste les lits physiques, il faut être capable d'avoir l'équipe pour s'en occuper. Puis là, tu sais, j'ai vu que vous allez en parler avec la Fédération des
infirmières, oui, la FIC, oui.
Oui, puis tu sais, eux, je veux dire, leur travail qu'ils font est hallucinant. Et justement, là, on est obligé de prendre des gens qui sortent de leur zone de confort pour venir prêter main forte. C'est pas normal d'être rendu là.
c'est pas normal, mais écoutez, c'est pas juste au Québec, Dr. Oui. Boisclair, qu'on constate ça. Là. Il y a de très bons systèmes de santé qui sont un peu partout dans le monde, qui commencent à être submergés. Pensez-vous que c'était évitable ou que la pandémie, dans le fond, même si on avait un système parfait, ce serait la même chose?
Bien, c'est difficile à dire. T'sais, c'est difficile à dire parce que je pense qu'il n'y a pas de système parfait qui nous a montré.
Oui.
Que, par contre, on a des exemples d'endroits qui ont toutes leurs conditions différentes des nôtres. Là. La Nouvelle-Zélande, par exemple, on peut argumenter que c'est une île. Mais il y a quand même des endroits où il y a eu des restrictions beaucoup plus sévères, ou sinon des dépistages j'ose pas dire plus efficaces, mais disons plus ciblés, où on voit qu'il y a eu un certain contrôle mieux qu'ici. Est-ce que ça aurait été complètement évitable? T'sais, on a quand même affaire à une pandémie. Je pense que la plupart des pays ont essayé des fois des stratégies plus ou moins différentes et on voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est probablement que les bonnes réponses, on va peut-être les savoir dans 5 ans, dans 10 ans, avec le recul. Là, on fait de notre mieux avec ce qu'on a, mais on n'a pas encore la capacité d'être proactif. Ben, on est proactif dans l'urgence, mais de dire, on n'est pas capable de lire l'avenir, finalement.
OK. Vous le savez, Dr. Boisclair, il y a des gens qui font fi des règles, OK? Gens qui ont voyagé, des gens qui se vantent, par exemple, de ne pas porter le masque, des négationnistes de la pandémie qui disent que ça n'existe pas. Est-ce que vous avez dû soigner des gens comme ça?
Ça, je suis un peu limitée à cause du secret professionnel, là, surtout que je suis dans un petit centre. Mais on a tous des histoires de ces patients-là. OK, on a. Est-ce que c'est la majorité des patients? Non. La plupart, faut savoir qu'il y a beaucoup de patients qui mentent, qui ne nous le diront pas, qui reviennent de voyage ou qui ont été en contact avec quelqu'un qui revient de voyage ou qui a fait un party, un rassemblement. Fait que, tu sais, moi, je ne suis pas dans la santé publique, puis quand je suis aux soins, j'ai pas le temps de m'asseoir prendre un verre d'eau. Là. Fait que, j'ai pas le temps. Malheureusement, ou sinon, je peux pas jaser avec le patient parce qu'il est intubé. C'est aussi simple que ça. Mais, tu sais, ces patients-là mettent tout le monde en danger. Tu sais, je m'excuse, mais c'est leur égoïsme met tout le monde en danger parce que soit eux deviennent malades alors que ça aurait pu être évitable, prennent un de nos lits qui n'est plus à ce moment-là disponible pour quelqu'un d'autre, ou contamine quelqu'un d'autre qui n'a rien demandé. Puis, tu sais, la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui attrapent le COVID, qui respectaient les règles, puis tu sais, quand ils sachent qu'ils l'ont, ils tombent un peu des nues en disant, ben voyons donc, mais c'est ça, c'est contagieux. C'est méga contagieux. Fait que, sinon, tu mets peut-être un voisin, quelqu'un que tu as croisé en danger, puis à chaque fois qu'on remplit un lit ou qu'il y a un décès, tout ça aurait pu être évitable. C'est ça qui n'est pas acceptable.
Merci beaucoup, Dr. Boisclair.
Merci à vous.